Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas au micro en ce jeudi 6 juin, c'est bien ça, 2024. Voilà, on n'a pas de canicule ici aujourd'hui, ça va. On parle même, les météorologues parlent de pluie en fin de journée, il n'est pas encore fin de journée ici à Montréal. Bon, mais on verra bien ce que ça va donner, quoi. En première partie d'émission, mon invité est déjà avec moi en studio, Maître Tamara Termitus, avocate rédactrice d'opinion. Voilà, pour nous parler de son prix Impact Dynastie 2024 qu'elle a eu, et pas seulement de ça, son parcours, tout son parcours de porteuse de plumes engagée qui va mettre des points sur des i quelque part là-bas. Elle est mieux placée pour parler de ça. Et en deuxième partie d'émission, je vais parler de Jelly Tapa qui sort un EP demain, sortie officielle, mais on va l'écouter sur les ondes de Canal M aujourd'hui. Tilly Tapa, la fille de famille de griot, père, mère, et puis bon, c'est l'héritage, quoi. Bon, elle va venir parler de ça à 17h30, après la première partie de l'émission. Et puis, tout de suite, sans perdre de temps, je dis bonjour à mon invité qui est en face de moi.
Bonjour.
Maître Tamara Termitus, comment allez-vous?
Ça va bien, vous-même.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. D'abord, dans un premier temps, pour venir parler de ce prix Impact Dynastie 2024. J'ai dit, bon tiens, il faut qu'elle parle de ça, mais pas seulement de ça, parce que vous avez tout un parcours, votre engagement avec votre plume dans vos rédactions qui m'ont permis de dire, non, on ne va pas parler seulement du prix Impact Dynastie.
Ah oui, ben le prix Impact Dynastie, c'est quand même un prix qui vous est remis par la communauté noire. C'est quand
oui,
même
la Fondation Dynastie.
Oui, la Fondation, effectivement, c'est un prix qui reconnaît un parcours, donc c'est toujours touchant d'être reconnu par ses pairs.
Oui, oui. Alors, comment ça a été la cérémonie? Moi, je n'ai même pas pu me déplacer là-bas. Je me suis dit, OK, voilà, d'accord, mais on va parler de ça quand même.
Non, ça s'est bien déroulé. Je veux dire, c'était bien organisé. Alors, ça s'est bien déroulé. Alors, j'ai fait un discours qui a été publié par la suite dans le journal. Alors, puis j'ai dit ce qui me touchait, puis ce qui me venait sur le moment. Évidemment, je revenais de Genève, où j'avais été pour le forum des populations afro-descendantes. Alors, c'était la troisième réunion, donc j'étais un peu fatiguée, parce que la veille, j'étais à Genève, puis le dimanche soir, je recevais le prix. Mais bon, ça valait le déplacement, comme on dit.
Ça valait le déplacement, comme on dit. C'était le jet lag avec le décalage horaire.
Ça valait le déplacement. Je veux dire, on n'est pas tous les jours reconnus par ses pairs.
Ouais. Pour ceux qui ne la connaissent pas, admise au barreau du Québec en 1988, titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de McGill 2013, Maître Termitus a négocié la nature et la portée du mandat de la Commission de vérité et de réconciliation. Alors là, quand je l'ai vu, il faut que je la présente comme il se doit. Elle a été nommée Bolton Senior Fellow à la Faculté de droit de l'Université de McGill 2023-2024. Elle est également membre du Centre sur le droit de la personne et du pluralisme juridique McGill University et de Berkeley Center en Comparative Equality and Anti-Discrimination Law. Mm-hmm. C'est pas fini, hein? Maître Termitus.
Oui.
Quand on porte tous ces titres-là comme ça, là, est-ce que c'est pas un peu lourd de marcher?
Ben, je suis pas jeune, hein? Jeune, j'ai quand même, j'approche la soixantaine, donc des fois, ceci explique cela, mais je pense que, tu sais, fondamentalement, je pense que on a une obligation comme personne racisée ou encore comme personne qui est héritage, qui porte un héritage.
Oui.
Tout à l'heure, vous parliez de griots. Votre seconde invitée va être une descendante des griots.
Oui.
Mais, veux pas, quand on vient de la Caraïbe, on est quand même des descendants d'esclaves et les stigmates de l'esclavage sont encore très présents dans la société.
Oui.
Donc, ceux qui ont l'opportunité, la chance, parfois la capacité de faire des études et pouvoir après ça les mettre au service du public pour expliquer les choses. Alors, tiens, je pense que c'est fondamental que quand on vient ici, notre passage sur Terre puisse faire une différence pour ceux qui n'ont pas de voix. Et je pense qu'ici, ça va bien parce que ça s'appelle vue et voix. Là.
Oui.
Mais si on peut faire entendre sa voix, peu importe les embûches, je pense que c'est fondamental de le faire. Puis pour moi, c'est quelque chose qui m'anime. Puis je l'ai fait depuis comme fait 35 ans et plus que je suis avocate. J'ai quand même fait beaucoup parce que, bon, quand j'ai été nommée avocate en 88, comme vous le soulignez, on était très peu nombreux. Alors, quand j'ai fait mon cours, j'étais la seule à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Et j'ai été la seule dans beaucoup d'espaces, beaucoup d'espaces. Maintenant, on les appelle des espaces, des white spaces. C'est une expression anglaise, alors c'est pour soi. C'est un concept qui est exprimé en anglais, donc c'est pour ça que je me permets d'utiliser le terme white spaces. Mais tu sais, Fanon nous avait parlé aussi des espaces coloniaux, alors je veux dire, c'est pas un concept qui est nouveau. Souvent, nos concepts sont recyclés, mais bon, quand on se retrouve dans ces espaces-là, il faut soit en témoigner, soit participer à la réforme de ceci, et des fois subir les conséquences aussi, mais bon, que voulez-vous? C'est ainsi, puis moi je pense que il est important quand on a une voix d'essayer de vulgariser les concepts pour que les gens comprennent mieux les réalités des autres. Hier soir, vous voyez, j'étais avec une de mes copines qui a lu le dernier article que j'ai écrit, un des derniers articles que j'ai écrit sur mon voyage à Paris. J'étais à Paris pour donner des conférences et j'ai profité pour aller au Louvre. On peut pas être à Paris puis pas aller au Louvre. Pour moi, en tout cas, c'est compliqué.
À moins qu'on soit passé plusieurs fois.
Je suis passé quand même plusieurs fois. Ouais. Mais bon, moi, j'aime beaucoup la victoire de Samothrace. Je trouve que c'est un symbole très fort, un symbole féminin très fort. Et puis, l'article le raconte. Et ma copine, celle-là, qui est une femme blanche, elle a beaucoup frappé parce qu'elle adore l'art. Et le témoignage que j'ai rendu dans cet article qui raconte que, alors que j'étais assise sur un banc dans le jardin des statues, les statues qui sont prises à l'extérieur sont ramenées à l'intérieur pour les protéger. Mmh. Il y a une femme noire qui vient s'asseoir, noire américaine, qui s'appelait Jane, qui vient s'asseoir à côté de moi, puis qui me parle de son malaise d'être dans un lieu comme celui-là, par rapport à l'héritage esclavagiste, dans le sens où beaucoup d'argent de l'Européen... Mais de toute façon, Haïti et la France, en ce qui a trait aux richesses de la France, Haïti n'est nullement étrangère.
Non, on a besoin de 365 jours d'émission pour finir de parler de ça. Bon.
Oui, mais nullement étrangère, mais je veux dire... Mm-hmm. Et la vulgarisation, c'est des... Qu'est-ce que mon amie m'a transmis hier soir, c'est à quel point elle a compris que, elle, son expérience était différente de la mienne.
Oui, bien sûr.
D'aller se promener dans le musée, puis... En même temps, ça l'a amené à une réalité qui va l'amener à se poser plus de questions quand elle va aller dans les musées. Parce que, bon, nous, on le sait que les musées sont des espaces coloniaux avec la décolonisation, mais l'article, ça l'a beaucoup frappé, ça l'a amené à réfléchir. Alors, le but, c'est ça, c'est que les gens puissent dire, ah, ben, il y a peut-être d'autres réalités que la mienne, il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, il y a d'autres prismes d'analyse.
Est-ce que toute jeune, la petite Tamara s'est dite... Moi, je serais la plume des sans voix.
Ben, je veux dire, écoutez...
Ou bien
moi,
ça a été...
Je ne sais pas quand est-ce que ça a été. Je veux dire, comme avocate, je veux dire, j'ai fait beaucoup. J'ai fait de la fiscalité, j'ai fait des trucs. Mais à un moment donné, j'ai été appelée à toucher les questions de droit de la personne. Puis, la sensibilité que j'ai par rapport à ces choses-là, puis j'ai déjà raconté aussi dans un autre article le fait que j'ai vécu avec les Autochtones, j'ai été vécu à Sept-Îles, moi, pendant toute ma jeunesse, j'ai été à l'école avec les Autochtones. Puis très jeune, j'ai remarqué un comportement discriminatoire à leur égard. Et parce que nous, comme on était comme une petite famille, peu nombreux, eux, ils étaient un groupe, donc c'est eux qui étaient plus visés par la discrimination que nous, puisqu'on était moins nombreux. Donc j'ai remarqué ça, j'avais quand même 7-8 ans, alors... Oui. Puis j'ai remarqué aussi que les professeurs disaient de ne pas s'occuper d'eux parce qu'ils retardaient la classe. Alors, des choses comme ça, ça vous marque.
Il y a des profs qui avaient le courage de dire ne pas s'occuper d'eux parce qu'ils retardaient la classe.
Bien, on était dans les années 70 à Sept-Îles sur la Côte-Nord et ça s'est dit.
C'était notre réalité, oui.
Ouais, ben, je ne sais pas si c'est une autre réalité, mais c'est une réalité parce que, bon, il y a des histoires qu'on voit aussi dans les journaux, qu'est-ce qui se passe dans certaines écoles. Il y a des comportements qui ne sont pas égalitaires. Alors, je veux dire, il faut... T'sais, je veux dire, moi, je suis pas née avec cette couleur-là, mais il faut que je fasse quelque chose avec.
Non,
et quelque chose avec, c'est de dire, ben, il y a des stigmas qui sont imposés par l'histoire coloniale qu'on a racontée. Puis les philosophes ont grandement participé à la construction de nous à l'extérieur de l'humanité. Donc, on est obligé de ramer pour revenir dans l'humanité alors que nous sommes des humains, fondamentalement.
Vous savez, non, moi, en tant que, je ne sais pas, mais il y a des situations comme ça, quand je me retrouve là-dedans, Il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Il y a des choses qui sont irréparables. Il y a des choses qui ont été faites qui ne seront pas. Je me dis, la dernière fois, j'ai lu un document qui parlait un peu de certains peuples noirs dans le monde. C'est un chef d'État, chef de gouvernement, qui voulait des réparations pour l'esclavage. Et je me suis dit, et il était temps. Et puis ceux qui sont devant cette décision, ce ne sont pas les chefs d'État africains, c'est les chefs d'État des Caraïbes.
Entre autres.
Oui, c'est eux qui sont
allés. La présidente de la Barbade est très forte là-dessus.
Puis... La première ministre.
La première ministre.
Première ministre, chef d'État.
Voilà. Chef d'État, Non, parce que la Barbade s'est séparée de... Donc, c'est première ministre, mais parce qu'elle était... Mais ils se sont séparés de l'Angleterre récemment.
Oh, oui.
Ils ont coupé les liens, là. Mmh. Ils ont coupé les liens avec l'Angleterre. Mmh. Donc, vous avez
c'est
raison, moi, je ne sais pas. Première ministre,
présente. Je l'adore.
C'est elle qui gouverne.
Je l'adore. Non, c'est une qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, ce sont ces pays-là, ces petits pays des Caraïbes-là, qui sont allés approcher leurs confrères africains pour dire voilà ce qu'on doit prendre comme démarche pour arriver à ce qu'on veut. Bon, on revient sur le terrain ici avec la plume.
Mais on vous parle de la plume en parlant des articles.
Des articles, oui, effectivement. Vous avez été présidente du comité consultatif sur les minorités visibles du ministère fédéral de la justice. Mais c'est tout un parcours, c'est-à-dire que vous, ce qui vient vous toucher depuis votre approche avec les autochtones dont vous venez parler à cette île, et puis de toute façon, moi je me suis toujours dit que depuis que je les connais, les autochtones, ils ont tellement de similitudes de culture avec les cultures des Noirs.
Entre autres,
ouais. Je me sens pas dépaysé quand je suis en face de la nature et autres. Le lien familial,
ouais.
les rapports familiaux, tout ça, ça me. Donc, vous avez sensibilisé le barreau des questions relatives à la discrimination raciale dans la profession et le système judiciaire. Vous êtes un porte-flambeau.
Non, je sais pas, moi je fais de mon mieux, hein, Joseph. Je sais pas. T'sais, dans la vie, des fois, on fait ce qu'on peut, puis on fait de son mieux.
Oui.
Je veux dire, si, je pense que fondamentalement, si on a l'opportunité, vous le faites avec votre émission de radio.
Mm-hmm.
Il y en a qui vont le faire autrement, mais si on a l'opportunité de discuter, de changer, de sensibiliser, ben, au-delà de la sensibilisation, parce que ça fait longtemps qu'on sensibilise, hein,
oui.
on va passer à autre chose. Là, t'sais, les gens doivent comprendre les réalités, parce que sensibiliser, c'est gentil, alors que là, il y a des situations qui deviennent de plus en plus critiques.
Oui.
Et pour revenir à votre démarche en ce qui a trait, c'est-à-dire au fait que vous soulignez la démarche qui est présentement en marche relativement aux réparations, ben, c'est des conversations qui ont commencé peut-être dans les années 80 aux États-Unis, puis je veux dire, ça continue. Puis je veux dire, en ce moment, à l'ONU, toute la question de la situation en Haïti amène cette question aussi de réparation, parce que, tu sais... Comme je le soulignais dans le même article que je vous parlais tout à l'heure où je parlais de la victoire de Samothrace, j'ai aussi parlé de la Tour Eiffel. Puis la Tour Eiffel a été financée grandement par les Haïtiens.
Oui.
C'est des choses qu'on ne sait pas. On se promène
Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que Haïti a battu l'armée de Napoléon. Il fallait ça. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, hein.
Oui, la première défaite de Napoléon, ça n'a pas été Waterloo.
Voilà.
Ça a été en Haïti.
En Haïti.
Oui, la première défaite a été en Haïti. Puis je veux dire, donc, il faut lire l'histoire d'Haïti pour voir la punition qui a été imposée par les Français en payant une somme. Aujourd'hui, des sommes comme ça ne seraient pas payées parce qu'on ne compenserait pas pour la perte des biens meubles, on compenserait pour les vies humaines. Alors qu'à l'époque, on compensait pour la perte des plantations.
Des plantations, d'ailleurs, ils ont été déménagés, les propriétaires d'esclaves.
Ouais, oui, ils ont été en Nouvelle-Orléans. Mais bon,
c'est une autre
histoire. On pourrait parler longtemps de l'histoire. Mais alors, vous voyez, cette histoire-là fait partie de notre histoire. Puis donc, quand on se promène dans les villes, il y a des morceaux d'histoire qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas sensibilisé à l'histoire. L'histoire, c'est fondamental, parce que si on ne comprend pas l'histoire, chaque rencontre devient une rencontre au premier niveau. Mmh. On ne comprend pas la réalité de l'autre, qui est dans le fond une réalité historique, qui est une réalité aussi qui a des conséquences économiques qui sont reliées à l'histoire. Donc, il faut être capable de comprendre l'histoire pour pouvoir comprendre comment se fait-il que l'autre est situé dans cette situation-là. Donc, je pense que c'est fondamental, l'histoire. Puis, c'est pas l'histoire... de une partie de l'histoire. Puis c'est important parce que, par exemple, quand on revient à la commission de vérité et réconciliation que j'ai négociée, dont j'avais le mandat de négocier pour le gouvernement fédéral, le but, c'était quoi? C'est de raconter l'histoire d'un point de vue autochtone. qu'est-ce que les Autochtones ont vécu, quelle est la vérité, puis la réconciliation, on s'entend que c'est un acte à long terme, ce n'est pas de dire « je m'excuse, on se réconcilie ».
Ah non, 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 non.
Non, 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 c'est des actes à long terme, ça va prendre des actions, ça prend des changements de paradigme, des changements de faire les choses, des obligations de consultation, ça prend beaucoup de choses. Mais il fallait entendre l'histoire des Autochtones, qu'est-ce qui s'est passé dans les pensionnats et quels ont été les effets de ces pensionnats-là sur la réalité des communautés autochtones. Alors, parce qu'il y a plusieurs communautés, on parle des Autochtones comme un groupe, mais vous savez qu'au Québec, il y en a au moins 13, puis à cette île, c'était les Inuits. Mmh. À l'époque, on les appelle les Montagnais, mais eux, ils ont retrouvé leur nom. Ça aussi, tu vois, c'est un acte de réconciliation et un acte de reconnaissance qu'ils ont pu retrouver leur nom. Parce que c'était les Inuits et non les Montagnais. Les Montagnais, c'est un nom qui leur a été imposé.
Bon, ben, ça, c'est pas le vrai rire. Bon. Vous avez été instigatrice de la formation sur le contexte de la profession. Voilà.
Contexte social du droit.
Sur le contexte social du droit au sein de l'école du barreau. Ouais. C'est-à-dire qu'avant vous, il n'y avait pas ça.
Non, non. Mais c'est pour ça. Qu'est-ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est la présence, quote unquote, de la diversité. Là. Oui. Moi, je mets des guillemets parce que c'est également problématique, mais on n'a pas le temps de déconstruire cela aujourd'hui. Mais le fait qu'il y a des gens avec des points de vue différents autour de la table et des réalités différentes fait qu'on puisse amener ces conversations-là pour dire, ben, il faudrait peut-être que les avocats soient sensibilisés aux diverses réalités. Ça comprend les réalités des personnes racisées, les LGBTQ, les réalités des femmes, les réalités des personnes handicapées. Mm-hmm. Alors, LGBTQ+, ou encore 2S+. Mais il faut comprendre ces réalités-là. Donc, parce que le droit, qu'est-ce que c'est? Le droit doit être capable d'écouter la voix de l'autre pour être capable de rendre justice. Parce que de dire que la justice est aveugle, c'est une erreur. Elle est aveugle. C'est une erreur et pas une erreur. Elle est aveugle, mais elle ne devrait pas l'être à tout. Dans le sens où la justice doit comprendre le contexte social du droit et doit comprendre les réalités différentes. Tout n'est pas égal. C'est faux. La véritable justice, c'est contre la différenciation. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple visuel qu'on donne souvent, c'est la course où la personne qui fait partie du groupe majoritaire dominant, blanc, souvent, ben, elle a certains obstacles. Alors que tu regardes la course de la personne racisée, noire, autochtone, il y a des trous, il y a des ruisseaux, il y a des petits rochers, il y a toutes sortes de trucs à surmonter pour pouvoir arriver au même point. Alors, et c'est ça qu'il faut comprendre. Puis c'est les exemples qu'on donne, c'est-à-dire les obstacles qu'on met, ce sont des obstacles qui sont construits socialement.
Oui. Une petite pause musicale et puis on revient. Reconnu la voix de Jean-Jean Roosevelt qu'on a eu ici la semaine passée. Le titre de la pièce qu'on est en train d'écouter, c'est Mato. C'est du reggae. Il fait du tout, hein. Jean-Jean Roosevelt. Alors si tu nous écoutes, bon vent, bon après-midi à toi et au plaisir de te retrouver avec une nouvelle pièce ici. Alors voilà, c'est notamment aussi sous votre leadership que les développements récents au profilage racial. 2009 ont vu le jour d'ailleurs, premier ouvrage sur la question au Québec. Mais c'est-à-dire que, je ne sais pas, quand on touche, on va un peu dans ce milieu, vous êtes partout. Vous êtes là. C'est-à-dire que rien ne vous échappe. Quand je dis porte flambeau, je dis... sans vous oublier vos articles réguliers, d'ailleurs, dans... pour sensibiliser les Canadiens et les Québécois, je faut que je retrouve mes émotions là. Que la réconciliation, les peuples autochtones, la violence à l'égard des femmes. Mais on vous écoute.
Pour revenir sur le profilage racial, aujourd'hui, vous voyez, il y a une décision. Ben aujourd'hui, dans la presse, on en fait mention, mais cette semaine, il y a une décision qui a été rendue dans le dossier de l'avocat Yaboa. Une décision qui était intéressante dans le sens où la Cour a décidé de faire un arrêt de procédure parce qu'il y avait eu du profilage racial dans son dossier. L'avocat Aboa avait été... c'était dans la période de la COVID, puis l'avocat Aboa était sorti pour aller chercher quelque chose avec son enfant, puis il s'est fait arrêter dans des circonstances.
Ah, celui dans la voiture de son épouse, on lui a demandé où tu vas, à qui appartient la voiture, sans savoir qu'il était avocat.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mais c'est ça. Il y a des éléments de preuve qui ont été cachés au procureur dans ce dossier-là. La police a caché des éléments de preuve.
Oui.
Donc, il y a des questions fondamentales à se prononcer parce que pourquoi tu veux cacher des éléments de preuve? Il l'a fait, il ne l'a pas fait, il a fait quelque chose, il n'a pas fait quelque chose. Pourquoi tu veux le rendre coupable s'il n'a pas fait quelque chose? C'est quoi cette mentalité qui veut rendre les gens coupables? Yacouba est un... Je vais dire son nom convenablement, là. Mais l'avocat en question, il est noir. Et je veux dire, c'est un avocat qui vit du profilage racial à l'égard d'un système dans lequel il défend les clients.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le système de justice? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'appareil policier? Wow. Qu'est-ce que ça veut dire pour la société? Je pense qu'il y a des questions... j'ai lu le jugement en diagonale, puis je vais le lire avec un crayon. Pour l'analyser, mais il y a quand même des questions fondamentales à se poser. Comment se fait-il qu'on en soit toujours là? Parce que, je veux dire, c'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est la question qui se pose, c'est bien, pourquoi tu fais ça?
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour répondre à cette question, au fait? Pourquoi on en parle? Pourquoi on allait là encore en 2020?
Ben, je pense qu'il y a une question. Je veux dire, il y a un éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas reconnaître, puis je veux dire, c'est pas contre les individus. Le racisme systémique est dans les structures.
Oui.
Puis, il permet des actions qui ne sont pas permises normalement, parce qu'elles deviennent invisibles, parce qu'elles sont cachées sous la chape du racisme systémique.
Mais il y a une confusion d'explication de mots aussi. Il y a des gens qui confondent systémique et systématique.
Oui, mais systématique, c'est pas systémique. Non. Puis, ça peut devenir systématique.
Oui.
Ça peut devenir systématique. Mm-hmm. Mais systémique, c'est dans la construction des systèmes. Tu sais, je veux dire, il est normal qu'un système qui est construit, qui a complètement oublié une partie de la population, ben, qu'ils n'en prennent pas compte. Je veux dire, et je ne comprends pas pourquoi on a autant de résistance. Parce que pour les femmes, on a bien reconnu que les systèmes ne tenaient pas compte d'elles. On a bien reconnu qu'elles n'étaient pas payées à leur juste valeur. On a fait la loi sur l'équité salariale. Mmh. On a bien reconnu qu'au moment où nos philosophes écrivaient les théories légales qui ont tenu compte des hommes blancs qui étaient autour de la table. On a reconnu tout ça. Puis après ça, on a reconnu en faisant des programmes, on a reconnu en permettant aux femmes qu'elles soient payées de façon équitable. Dans le fond... la reconnaissance du racisme systémique, c'est comme la deuxième phase d'une reconnaissance des impacts négatifs des systèmes qui ont été créés alors que les gens n'étaient pas autour de la table. Table n'était pas diversifiée, voilà, que les femmes n'étaient pas là. Mmh. Alors, etc. Donc, je pense que il faut aussi déstigmatiser ce mot-là. Je veux dire, les femmes, on l'a fait. C'est une autre étape. Il y a des étapes en ce moment pour les LGBTQ. Donc, ça fait partie de l'évolution, de la reconnaissance, pour pouvoir permettre à tout le monde de contribuer à sa juste part, puis de pouvoir offrir à la société toutes ses capacités, sans avoir de crainte ou sans avoir de limite. Dans le fond, il n'y a personne qui veut voir ses capacités réduites. Parce qu'il n'y a pas personne pour les valoriser. Tout le monde veut contribuer à la hauteur de ses compétences. Puis à la hauteur de ce qu'il peut contribuer peu importe le champ de travail dans lequel il est. Puis de mettre ces barrières-là, ben, ça empêche les gens de pouvoir contribuer.
C'est Maître Termitus qui parle. Hein. Alors, elle est récipiendaire de la médaille du Jubilé de la Reine Élisabeth 2012. Elle a reçu le prix de nombreux prix aussi dans le mérite du barreau du Québec 2011. Elle est la première avocate noire, comme elle a mentionné lors de notre conversation, à recevoir une telle récompense d'ailleurs, devenant ainsi avocate émérite. Elle a également reçu le prix du leadership en matière d'équité en emploi et de diversité, ministère de la Justice 2010. 2016, et finalement le prix Impact Dynastie 2024. Bravo, félicitations. Oui.
Pour la dernière minute. Mais vous savez, les prix, c'est important, oui et non. Je veux dire. Ce qui est important le plus, c'est la contribution, parce que des fois, les gens vont dire, oui, mais elle a reçu des prix, elle a reçu des prix. Mais je veux dire, chacun, qu'est-ce qu'il peut faire? Je me souviens, très jeune, j'avais écrit un texte. C'était de chacun contribuer, mettre une brique. J'avais peut-être 12 ans, là. C'était un petit concours à cette île de communication. Et chacun puisse mettre sa brique à la construction. Si tu peux mettre une plus grosse brique, tant mieux. Si tu peux en mettre quatre, tant mieux. Mais si tu, au moins, si tu en mets une, ça va s'améliorer.
Je ne sais pas. Je ne vous vois pas à la retraite, hein, parce que de la manière... Maître Termitus. Alors, une dernière question. Comment est-ce que, quand vous pensez à la petite Tamara de cette île et aujourd'hui où elle est, qu'est-ce qui vous rend fier de vous-même? Ou bien de ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant.
Mais vous savez, moi, c'est pas. Vous savez, pour moi, c'est relié au sacrifice des parents. Hein. Je veux dire, nous, c'est l'immigration, oui. C'est la perte du capital social, c'est la perte des amis, la perte de tout ça. Donc, il faut que ce sacrifice-là ait servi à quelque chose. Merci. Parce que, tu sais, ils ont perdu les amis.
Merci.
C'est énormément de pertes. Et ces pertes-là, je veux dire, si on peut faire ce sacrifice qu'ils ont fait pour leurs enfants. Je pense que c'est ça.
Merci beaucoup, Maître Tamara Termitus. On aura l'occasion, j'espère que je vais vous recevoir ici pour une heure d'émission, mais pas pour 30 minutes. Ah oui, il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup à vous et au plaisir de vous réentendre ici sur les ondes de Canal M.
Ben, je vous remercie de m'avoir reçu. Alors, bon après-midi à tous.
Merci,
Benoît. Au revoir.
Merci, au revoir.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est juste arrivé en 20 devant moi, 6 devant moi, à parler de son nouvel EP qui sort demain. C'est demain le 7.
C'est demain.
On ne peut pas rater cette date-là. Quand j'ai reçu le communiqué, j'ai dit à Eric, responsable de communication de Production d'Afrique, j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir Jelly Tapar en entrevue vous parler de ce... C'est vrai, je n'ai jamais eu une entrevue.
C'est vrai, mon frère.
On se connaît depuis belle lurette.
Eh oui, voilà. Eh oui. Ah oui, vous faites partie des gens qui m'ont vu grandir, évoluer.
On se connaît depuis belle
sauter,
lurette.
Sauter, brûler, voilà. Revenir.
C'est vrai. Je me suis dit, non, je ne peux pas rater cette opportunité-là. Je ne peux pas me permettre de ne pas l'inviter venir parler de ce bébé qui sort demain.
Oui.
Voilà, je l'ai écouté, je l'adore.
Ah, merci.
Je l'adore, on va l'écouter. Alors... Comment on se sent à la veille du lancement de son nouveau de single?
Oui, je te mens pas.
Et j'adore la vidéo aussi, j'ai vu les clips.
Parce que c'est le premier projet, j'attendais rien là. T'sais. Mais là...
Pourquoi?
J'attendais rien parce que quand même, je suis la griotte de Montréal. Je me suis dit, OK, Jelly Tapar sort, c'est qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même.
Oui.
Et si quelque chose sort de là, ça va. Mais j'étais déjà bien dans la place où j'étais.
D'accord.
Mais cette fois-ci...
Là, tu me tranquillises, là, ouais, avec la réponse que
ça, c'était le premier album.
Oui.
Et là, maintenant, c'est différent. J'ai jamais eu peur de sortir quelque chose. Mais cette fois-ci, j'ai un tout peu... Je veux dire, j'ai un peu de track, c'est normal, parce que c'est...
Avec l'expérience que tu as.
Oui, c'est normal. Je pense que je me dévoile entièrement. Je me dévoile entièrement dans ce projet-là, oui. Le clip qui vient, c'est comme... C'est comme si je montrais mon cœur, mon âme à mon public. Je me dévoile. Je l'ai tourné au village de ma mère, qui est à Akita.
Donc oui, c'est ce que j'ai vu dans la description d'ailleurs.
Oui, c'est, 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 C'est ce qui fait de Jelitapa. Jelitapa ne serait pas sur cette terre si on n'était pas passé par Kita. Donc c'est la terre natale de ma mère. Je ne peux pas me dévoiler autant à mon public, au monde entier.
D'ailleurs, ça me fait penser à une de tes entrevues dans laquelle tu disais quand ta grand-mère a demandé à ta maman de te recevoir à Bamako. Grande ville à laquelle tu n'étais pas habitué.
Exactement.
Là, tu devais quitter la grand-mère pour retrouver ta maman.
Ça, c'était pas facile non plus.
Le choc, parle-nous un peu de ça avant de revenir.
Ça, c'est drôle parce que.
Parle-moi un peu de ça.
Il y a une de nos jeunes chanteuses qui vient de Mariamba au Mali.
Oui.
C'est une artiste même à aller découvrir. Elle chante super bien. Elle a chanté qu'elle, elle est née à Bamako, la capitale.
Oui.
Et qu'elle n'est pas venue. Ça veut dire, ses parents sont des immigrés qui viennent de la même ville que moi, de Kai, ont immigré à Bamako. Mais elle dit que moi, je suis une citadine de naissance. Et à chaque fois que j'écoute sa chanson, ça me rappelle le jour de mon arrivée à Bamako. Et ça, j'ai dit, pourquoi elle continue à me faire rappeler continuellement les jours que j'ai quitté ma grand-mère.
Le village, la grand-mère.
Oui, pour venir à Bamako.
Mais tu ne l'as pas quitté de ton progrès non plus. C'est elle qui a demandé à ce que tu retrouves la maman à Bamako.
C'est vrai, c'est vrai.
Maman qui est sa fille.
Qui est sa fille.
Voilà.
Bon, disons que ça, parce que moi j'ai quitté la mère paternelle.
Paternelle.
La grand-mère paternelle pour aller qui est la... La tante de ma mère, parce que mes parents sont cousins-cousines. Quand je suis venue à Bamako, pendant plus de 1, 2, 3 mois même, là, je pleurais tous les jours. On me demandait pourquoi.
C'est différent du village.
Mais c'est différent. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir le matin les galettes avec du lait. Je suis pas habitué à cette vie de tout est...
Un peu occidentalisé quand même. Ouais, toutes les grandes villes africaines,
exactement, c'est comme ça. Exactement.
Un peu occidentalisé.
Donc Mariamba, je l'en veux de me rappeler chaque jour que quitté mon village.
Mais vous êtes une des amies quand même.
Mais c'est ma petite sœur Mariamba. Voilà. C'est ma petite cousine. Mais elle est citadine, moi je suis une villageoise.
Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Jelitapa, c'est pas ça, c'est son nom d'artiste. Hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, son vrai nom de famille, bon, elle va en parler elle-même. Pourquoi elle a choisi Jelitapa comme nom d'artiste? Son père est griot, sa maman est griot. Elle vient d'une famille même d'orateurs, disons. Les griots, c'est les mémoires de nos histoires, de nos ancêtres.
Oui.
La disparition d'un griot, c'est la disparition d'une bibliothèque.
Et qui voit ça,
c'est les sages du village.
Oui.
C'est les sages de toutes les régions. Et chaque village, chaque groupe, à l'époque, avant l'arrivée de la civilisation soi-disant occidentale, chaque groupe, chaque tribu avait son griot.
Exact, oui.
Voilà.
Oui, moi, je l'ai
toi,
dit.
Toi, tu es né dans cette famille-là, deux parents
Les dépositaires de la tradition orale, la mémoire collective.
Tu as été élevé comme ça.
J'ai été élevé comme ça, dans la danse, dans les chants, dans les contes, dans l'histoire. J'ai été élevé, c'est comme le festival Nuit d'Afrique, mais tous les jours.
Oui, on rit, mais parce que quand le papa est griot, la maman aussi fait la même chose. Les enfants, oui, c'est un festival
la
tous les jours.
La grand-mère, les tantes, les cousins, tout le monde.
Oui, c'est de la poésie, c'est de l'histoire, c'est des contes, c'est... Voilà, mais moi c'est fascinant ces gens qui n'écrivent pas, qui n'ont pas de... Comment on appelle ça? De banque de données. Mais le banque de données, c'est quoi?
C'est moi,
le cerveau.
Trouve, c'est pas seulement le cerveau, ça se trouve, moi je dis c'est ADNique même. Parce que c'est à force de transmettre, c'est comme si on gardait l'ADN en mémoire.
Oui.
Donc
oui.
On le transmet à partir de l'ADN.
Oui.
Même si c'est le cerveau qui travaille, mais l'ADN a son petit cerveau à lui aussi qu'on transmet. Les griots, il y a des enfants...
Le cerveau qui est divisé en plusieurs parties,
exact,
d'ailleurs.
Les enfants des griots, souvent qui n'ont même pas vécu dans le rituel griotique, des fois se retrouvent à faire des choses que, comme si on se demande, mais...
Comme si on leur avait transmis
Ils avaient transmis ça. Donc, on s'était dit que, à force de transmettre, la mémoire de l'ADN a gardé ça et il le transmet à son tour.
À son tour.
Oui.
On va écouter cette nouvelle pièce. Cette nouvelle pièce. Après, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, ce titre-là.
Exactement.
Allez, on est parti.
Thank you.
C'est la voix de Yeli Taba que vous entendez comme ça. Dankoroba, ça veut dire quoi, Dankoroba?
Dankoroba, l'influente.
Oui.
Parce que cette chanson qui est dédiée aux neuf Soumousso,
oui,
les neuf femmes qui ont fait partie du premier gouvernement de l'Empire du Mandé.
Là, vous parlez du 13e siècle?
Oui. Ces femmes... J'ai l'impression qu'elles ne sont pas assez connues du grand public.
On n'a pas pu les exposer à l'époque.
Exactement.
Même nos historiens n'ont pas fait fi à ces femmes-là.
À ces femmes-là.
De cette époque de notre histoire, exact, africaine.
Ça fait plus de 10 ans que je cherchais à rassembler pratiquement les noms de ces 9 femmes.
Waouh. Ça a été facile?
Ça n'a pas été facile parce que...
On dit bravo et merci à ceux qui t'ont ouvert les bras, ou bien les portes pour pouvoir te mettre sur des documents qui ont permis de te mettre tous ensemble. On leur fait un clin d'œil.
Merci beaucoup. C'est parce que je trouvais qu'on disait sans les nommer.
Oui.
Et pourquoi pas les...
Comme si ces femmes n'avaient pas de nom.
Le nom.
Comme si elles n'ont pratiquement rien réalisé.
Exactement. Mmh. J'ai pu en nommer 9 parce que moi je cherchais 18 à la base. Je cherchais 18, au fait c'était 9, qui ont 2 pouvoirs chacun, c'est-à-dire c'était 9.
Okay.
Je cherchais 18 parce que je me disais « Soumousso Kononto, Nyagamousso Kononto ». Donc pour moi c'était 18 Soumousso.
Elles étaient en doublure
en
matière de puissance.
Exactement, ces femmes étaient en doublure en matière de puissance.
Ouais.
Et finalement, quelques années de travail, et je suis tombé sur que ce n'est pas 18, c'est plutôt 9 puissantes femmes.
Et chacune avait son double.
À son double. Mmh. Donc, je voulais qu'on les nomme. Je voulais qu'on... Aujourd'hui, dans l'ère où nous vivons aujourd'hui, nous avons beaucoup d'influenceurs dans tous les domaines. Et est-ce que ça nous influence positivement dans nos décisions en tant que femmes, dans nos décisions en tant que femmes noires? Est-ce que ça nous sert? Donc, c'est pourquoi je voulais aller chercher des influentes qui peuvent, qui nous ont influencés. et qui pourront encore nous influencer.
Quand tu arrives voir les anciens pour leur poser, quand tu t'es mise à leur peau, quelle a été leur réaction? Comment ils se sont dit, mais la petite là, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ces histoires de femmes du 13e siècle?
C'était pas facile. J'ai un oncle là, lui, je l'ai appelé plus d'une vingtaine de fois.
Oui.
Et à chaque fois là, elle me donnait un surnom supplémentaire. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la mathématique, du regroupage.
Oui.
C'est quand j'appelle telle personne ou je parle à telle, lui, quand il me dit, je dis, OK, il y a 5-7 noms qui se ressemblent dans ça.
Oui.
J'appelle tel autre griot, il me dit, donc je dis, il y a 5-7 qui se ressemblent dans ça. C'est par comparaison et par tableau que je suis finalement trouvé le complet de ça.
Wow, oui. Quel beau travail. C'est tout ça en arrière. On dit merci à tous ceux qui t'ont ouvert les portes, hein, qui t'ont
vraiment
permis d'aller vraiment de l'avant avec ça.
Les griots ont le devoir de la transmission. Devoir de la transmission. Mmh. Donc, si on sait respecter nos aînés, ils ouvrent toujours les bras. Mmh. Ils nous accueillent, ils nous enseignent, ils nous accompagnent toujours dans nos recherches. Mais il faut aller chercher.
D'encore là-bas. Alors, on revient sur ton nom d'artiste.
Oui.
Qui t'a collé ce nom-là à la peau? C'est toi qui l'as choisi ou bien c'est les amis ou bien c'est les parents? Non, mon nom de famille, de naissance, je veux pas. Suntugumba, Diarra, tout d'un coup, Jelitaba, comment ça t'est venu?
Jelitaba, moi,
ça sonne tellement.
Je l'ai même pas choisi, c'est le nom de la grand-mère que je porte le nom.
Ah, moi, d'accord.
Oui, c'est la grand-mère qui s'appelle Jelitaba. Qui est son deuxième nom.
Ton deuxième nom?
Oui.
T'as pas cherché loin?
Non, moi, j'ai pas cherché loin. Et tous les homonymes de ma grand-mère s'appellent Tapa. C'est moi seul qui a choisi le Djeli Tapa parce qu'on l'appelait le Djeli Tapa. Ce que j'ai choisi d'ajouter, c'est le Djeli juste devant le Tapa.
Ok. Ouais. Ok. C'est vrai, je savais que c'était un nom d'artiste, mais je me suis dit que c'était un diminutif de quelque part.
Le Djeli qui veut dire
griot
et que j'aime même pas le nom griot.
Oui.
Moi, j'aime pas le nom griot parce que ça explique tellement mal, je vais dire la fonction, parce que c'est une fonction, c'est qu'on... j'aime pas le mot griot, j'ai pas le choix de l'utiliser, mais je préfère le Djeli. Je préfère Djeli parce qu'il veut dire sang dans notre langue.
Je comprends.
C'est que le sang est pour le corps humain.
Wow.
Le Djeli l'est pour le corps social.
C'est ça.
Voilà. Tu vois. Donc, je préfère le Djeli qui veut dire qui est mon rôle dans la société.
Dans mes recherches, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait oh. Tu as déjà joué avec l'Orchestre Symphonique de Paris.
C'est maman. C'est maman, c'est pas moi.
Ok.
Oui.
Explique-nous un peu.
C'est maman Kandia Kouyaté qui a joué avec l'Orchestre Symphonique de Paris. Mmh. D'ailleurs, elle était dans son foulé de recherche d'amener la musique traditionnelle mandingue à un niveau élevé. Avec un producteur, paix à son âme, Silar Productions, qui toute sa vie s'est battu pour la musique mandingue. Donc c'est Silar qui s'est dit pourquoi...
Qui a fait cette connexion-là.
Qui a fait cette connexion, parce que c'est lui qui a produit d'ailleurs la chanson. Il a fait cette connexion de prendre une voix mandingue, roots comme celle de ma mère, ancrée dans sa tradition et la mélanger avec la musique classique.
Comment elle a accepté cette collaboration?
C'est la femme la plus ouverte que j'ai jamais vue sur cette terre.
C'est pas parce que c'est un moment que tu dis
non,
ça.
Non, parce que pour qu'elle accepte que ça... Parce que ce que je fais et ce que ma maman fait, c'est pas tout à fait pareil. Et toute ma famille, tout le monde me dit, tu devrais chanter exactement comme maman, tu devrais faire toujours exactement...
Non, elle est maman, c'est maman.
Elle est la seule à dire, laissez-la, elle va chercher, elle va trouver.
Elle va trouver, oui. Mmh. Parce que tu n'es pas son double. Hein.
Non.
Non, tu es toi.
Je suis personnalité, Jelita Pa.
Ceux qui n'ont pas compris, qui voulaient que tu chantes forcément comme ta maman, ils n'ont pas compris que ta maman, c'est ta maman, et toi, c'est toi.
Exact. Et voilà. elle, c'est elle qui m'a défendu toujours. Elle a dit, elle est unique dans son genre. Elle va trouver sa voix.
Pourquoi vous l'obligez à chanter comme
moi? Faites comme moi. Mon héritage est lourd à porter.
Même si c'est ma fille, voilà. Oui. Elle est unique. C'est elle-même. Mmh. Wow. Je vais revenir un peu sur ton tout premier album. Mm. Quand je dis le Tchad, ça te dit quoi?
Ah, ça me dit mon frère, mon ami, mon jumeau. Mon jumeau. Moi, je fais partie de la famille Rimtoubaï.
Ça me surprend pas.
Oui.
Ça me surprend pas.
Oui, c'est mon frère. C'est
ouais.
De mères différentes.
Ouais.
Caleb Rimtoubaï.
Très belle collaboration pour ce
oui.
premier album là.
Oh, oui, oui. Afrotronic, ça ce n'est pas seulement sur un produit ou sur un album. Mmh. C'est une collaboration de d'âme. Caleb, c'est quelqu'un que même si je lui parle pas pendant un mois ou deux mois, quand on se parle, on se raconte tout là, tout ce qu'on a fait pendant ces temps.
Tout ce temps que vous n'êtes pas parlé. Oui, waouh, oui. Waouh, impressionnant. Alors, moi j'aime la collaboration, pas seulement entre les artistes africains qui viennent du continent, entre les artistes en général. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'Africains qui font de duo maintenant. Mm-hmm. Avant, c'était chacun dans son petit coin. Les Fally, Poupa et autres, là, ils étaient toujours dans leur album solo. Maintenant, son dernier album, je me suis rendu compte qu'il a fait des duos partout.
Mm-hmm.
Et cette collaboration, je la trouve géniale.
Oui.
C'est-à-dire que les gens ne sont plus attachés à leur ego personnel, exact. Individuel.
Oui.
Ils s'ouvrent à d'autres artistes.
Oui.
Qu'ils soient de la même région ou pas, du même pays ou pas, du même continent ou pas. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'Africando en est un exemple. Hein?
Voilà.
Je veux dire, il y a un moment donné, les choses commencent à changer. Sinon, les vieux avaient toujours collaboré ensemble.
Oui.
Je me rappelle de ma maman Amikoïta qui collaborait avec Tanti Aïcha Koné, même avec un autre artiste congolais et tout. Donc, les vieux artistes avaient toujours collaboré ensemble.
Je rappelle qu'elle était dernièrement au Burkina Faso pour rendre visite au président Ibrahim Traoré.
Exactement.
Aïcha Koné, je pensais qu'elle avait arrêté de chanter. On m'a dit non.
Non, maman, maman n'arrête pas.
Alors. Jelly, tape. Oui. Tu as sorti ce single là, ça veut dire qu'il y a un album qui se prépare, qui doit venir bientôt.
L'album est fini, tout est fini, tout.
Entre nous deux là, personne ne nous entend.
Oui.
Tu peux parler un peu de ça au moins.
L'album est fini complètement, réalisé par Jean Mascotte.
Oui.
Qui est aussi un frère par la musique. Je ne peux pas collaborer avec quelqu'un qu'on ne se sent pas des âmes sœurs de quelque part. Donc Jean Mascotte a
surtout
vraiment...
dans le milieu des arts.
Ah oui.
Il faut qu'il y ait une certaine...
Une connexion. Connexion. Sinon, Donc Jean Mascotte a réalisé cet album Je vais bypasser le travail de Guylaine et de Arnaud un peu, mais il y a eu des collaborations dans cet album, comme avec mon frère Vie Farkatoré, avec aussi Adama Yalomba du Mali, et les instruments traditionnels africains comme le Kamalingoni, comme le Kri, comme les...
Pour ceux qui ne savent pas le Kamalingoni, le Ngoni, c'est un instrument qui a moins de cordes que la kora.
Oui.
Je crois bien
c'est 11 ou 12 cordes.
11 ou 12 cordes.
Il y en a même qui ont 15 cordes.
Oui, ça, c'est les fantaisistes.
Oui, c'est ça.
C'est donc, comme au niveau de Kora, il y a d'autres qui montent à 40.
Voilà, il y a le Ngoni et il y a le Ngoni traditionnel des griots qui est dedans. Donc, il y a le Bara, il y a le Kriné. Donc, on a utilisé les sons.
Tout introduit.
Oui, les sons traditionnels que Jean Mascotte a. Il a fait une sauce avec tout ça qui...
Un vrai cocktail.
Oui, un vrai cocktail. Mmh. Mais comme je dis toujours, mes chansons sont toujours basées sur l'actualité, la femme et surtout, cette fois-ci, la force de l'influence sur les femmes.
Oui.
Oui. Donc, Dankoroba, qui est le titre de...
Du single,
sera le titre de l'album.
C'est le titre de l'album en même temps.
Oui.
L'influente.
L'influente.
C'est pour quand?
C'est le mois mois de septembre, oui. Le mois de septembre.
On est en juin déjà, c'est dans quelques mois.
Septembre, début août peut-être. Ils sont en train de... Moi, j'ai déjà fait la musique. Reste là, c'est du paperasse pour moi.
Ce qui est sûr, c'est que c'est cette année.
C'est cette année.
C'est pas en 2025, c'est 2024. Non.
Le public attend. Ils m'ont accompagné. Je pense que j'ai laissé le temps à Barocan de faire sa place. parce que le public en demandait encore, encore et encore. Et je le dis aussi, si je dois amener quelque chose, c'est pas juste pour remplir les salles, c'est pour remplir le cœur et puis l'oreille des mélomanes.
Pour ceux qui aimeraient te suivre, tu as un site web.
Oui.
C'est Jelitapa.
Jelitapa.com. Oui.
Où on peut te contacter.
Très facilement.
Oui. Très facilement. Mmh. Aller voir ton parcours artistique.
Mmh. Tout à fait.
Quel est le sens de... Pour terminer en beauté, après on va écouter une autre pièce de toi, mais ce n'est pas une nouvelle pièce, une ancienne, que j'adore beaucoup, c'est très calme, c'est un duo. Dia.
Ah.
Ça j'adore, c'est tellement, c'est... j'adore ça, pourquoi tu ris?
Parce que, mais façon dont vous me connaissez, moi aussi je vous connais un peu, donc... Donc, je m'en doutais que ça soit
autre chose. Non, non,
c'est
une de tes pièces que j'adore beaucoup, j'apprécie beaucoup. Oui. Avant de passer rapidement cette pièce-là.
J'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce clip-là. Je vous l'avais dit, le clip, il a été tourné au Mali, à Kita, dans le village natal de ma mère. J'ai été accompagné quand même, mes collaborateurs, les Nuits d'Afrique d'abord, qui sont... la maison de production, et puis le réalisateur qui est Jean Massicotte, et mes deux agents aussi, là, et puis ça a été réalisé par Diffil, le fils de David Taïro.
Oui.
Ce projet d'aller tourner ce clip-là, entouré de la famille, entouré des gens qui ça a été quelque chose de magique. J'ai voyagé de Bamako à Kita avec 25 personnes, toutes accueillies dans des villages. Dans le clip, vous allez voir le nom
des... Le bus était rempli de toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet.
Exactement. Voilà. Donc, j'aimerais les remercier. Mmh. Et puis, ce clip était magnifique. Clip, pas seulement sur le côté musical, visuel. Et puis, c'est l'énergie de tous ces gens-là qu'on va retrouver dans ce clip-là.
D'accord.
Donc, courez aller voir ça demain.
Merci, merci. Demain 7 juin, sur toutes les plateformes numériques.
Oui.
Voilà. Alors, on termine en beauté avec... merci à toi d'avoir fait le déplacement de venir parler de ce nouveau single. Qui est un avant-goût de l'album qui sort d'ici peu en août ou bien en septembre.
Exact.
Et cet album qui va porter le nom de ce single qu'on a déjà écouté, Dankoraba.
Dankoraba.
Dankoraba. Voilà, il faut que je prononce Dankoraba. Mais c'est D-A-N-K-O-R-O-B-A. Dankoraba. C'est comme s'il y avait accent circonflexe sur le O, quelque chose comme ça.
Il n'y a pas un seul mot en français qui peut expliquer Dankoraba.
Qui peut être...
C'est parce que ça veut dire quelqu'un qui est... Qui a de la stratégie, qui a de la science, qui a de... C'est tout ça mélangé. Comment trouver ça comme pour expliquer?
C'est l'influence.
C'est ça.
Merci à toi.
Merci, mon frère.
Et on dit merci à Tamara, Maître Tamara Termitus, qui est venu nous parler de son parcours judiciaire. Ouais, parler un peu de son combat avec sa plume. Merci à toi, Samuel. C'est l'homme à la régie qui nous permet d'avoir le son, là. Et merci à la recherche de l'émission Catherine Bourderon et à nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis le début de cette émission. On termine en beauté avec Dieli Taba, avec le titre Dia. Prenez soin de vos minutes et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis ciao.
Chaque chose a son temps. Namo ya delege.